Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Que veux-tu voir, ma reine ?
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?
Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille est, hélas, encore plus belle que toi.
Partout où j'allais, j'ai senti toujours un premier jugement. Ah, cette fille belle qui arrive, qui débarque, qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, après, quand ils apprennent à me connaître petit à petit, alors ça se débloque. Mais on a toujours une première étiquette.
Bienvenue dans la saison 4 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Des dessins animés, au concours de Miss, en passant par les pages beauté des magazines féminins, nous avons grandi avec l'idée que la beauté était une qualité suprême, surtout pour les femmes. Amélia, 24 ans, est bien consciente de ce privilège. Elle répond malgré elle à toutes les normes et injonctions esthétiques de l'époque. Blanche, blonde, grande, mince, toute sa vie, on lui a dit qu'elle pourrait être mannequin. Ce qu'elle est, un temps, devenue. Mais bien que personne n'ose vraiment le dire, tant la société valorise la beauté, l'envers du miroir existe. Les jugements, la jalousie, le harcèlement. Et gare à celle qui osera s'en plaindre.
Je m'appelle Amélia Giannarelli, j'ai 24 ans. j'ai étudié l'hôtellerie et après j'ai fait une maturité en tourisme également. Et là j'habite actuellement entre Fribourg et l'Italie.
Comment est-ce que c'était de grandir dans votre famille ? Vous gardez quel souvenir de votre enfance ?
Je retiendrai beaucoup de simplicité dans mon enfance. J'avais des grands-parents qui étaient dans des villages assez petits. Donc on vivait vraiment un peu de la nature, beaucoup dehors avec mon frère. J'ai un frère qui a 2 ans de plus, donc on a vraiment grandi ensemble. Je pense qu'on a été bien éduqués et ça a été beaucoup de soutien de la part de mes parents dans tous mes choix quand j'ai grandi et après l'école. Donc ça a été beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de simplicité.
Est-ce que vous vous souvenez du rapport à la beauté dans votre enfance ? Souvent, on a tendance à dire aux petites filles plus qu'aux petits garçons « Ah là là, comme elle est jolie, comme elle est bien habillée ».
Alors moi, c'était un peu paradoxal parce que j'étais beaucoup avec les garçons. J'aimais bien même jouer au foot, etc. Ma maman m'a jamais mis des robes de princesse ou comme ça. Par contre, en grandissant, j'ai été vite assez grande et maigre. Donc je fais 1m72, j'ai de longs cheveux blonds et les yeux verts. Donc on me disait souvent « tu as l'air d'être mannequin ». J'ai eu souvent cette étiquette, même si au fond de moi, c'était pas ce que peut-être à quoi je m'identifiais à une mannequin, mais on me le disait très souvent.
Quand vous étiez petite, cette thématique de la beauté, est-ce que c'était un sujet, par exemple, avec vos copines ? Est-ce qu'il y avait des jalousies ?
Oui, alors c'est quelque chose qui me touche parce que depuis mon enfance, j'ai ressenti beaucoup de jalousie. C'était pas facile forcément d'avoir des amies. Et surtout, ça m'ennuyait beaucoup de parler de certains sujets avec elles, dans le sens maquillage, qui a le plus joli t-shirt, tout comme ça. C'était des choses que j'arrivais à la maison et je disais à ma maman, mais pourquoi on est obligé de parler de ça ? Je préférais parler de foot que de parler vraiment de ça et de se juger entre nous. Je comprenais pas trop en fait ce concept-là dès petite. Et après, c'était surtout aussi cycle, donc à 13 ans, là j'ai senti un vrai décalage. Je voulais pas être comme elle, entre guillemets, dans le sens de me faire un souci si le matin j'étais bien maquillée ou pas. Pourtant j'étais très féminine, mais ça a toujours été quelque chose qui m'ennuyait.
Dans votre rapport avec les garçons, comment ça se passait ? Est-ce qu'ils vous prenaient comme leur égal ? Est-ce qu'il y avait un rapport déjà de séduction ?
Non, alors justement c'était plus simple. Il n'y avait pas de jugement, ils me prenaient dans leur groupe sans problème. C'était on joue au foot, voilà, il n'y avait pas d'histoire, des petites histoires où voilà, une se critique derrière l'autre, etc. Nous filles, on a tendance à parler d'elle, qui a fait ça, ou on se juge plus. C'était alors, souvent des petits pics, ou bien alors, t'es anorexique, tu manges pas, par exemple. Mais vu que j'étais très très maigre, parce que j'ai grandi vraiment vite et j'avais encore pas les formes d'une femme, ça faisait un peu du mal aussi, quoi. C'était pas mal intentionné. Quand on est jeune, on se rend pas forcément compte qu'après ça peut marquer. Mais en tout cas, ouais, je m'en souviens encore aujourd'hui.
Vous-même, préadolescente ou adolescente, vous aviez quel rapport avec votre propre corps ?
J'ai jamais aimé vraiment mon corps. J'entendais beaucoup les gens donc, qui me disaient « tu pourrais être mannequin ». Mais bon, moi, je n'avais pas un rapport avec moi vraiment bien, beau. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Et ça s'est révélé plutôt à partir de 15 ans. J'ai vraiment eu une baisse de confiance en moi énorme. Je rougissais pour un rien à l'école, même dans ma vie privée. J'étais pas à l'aise, s'il y avait l'attention sur moi, ça me mettait vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, ça a été vraiment une souffrance personnelle. Mais ça, c'est aussi des choses que les gens ne voyaient pas forcément. Pour eux, voilà, j'étais bien physiquement, donc c'est sûr que j'avais confiance en moi. Mais non, c'était pas le cas du tout.
Est-ce que c'est peut-être lié à un statut aussi qui change dans la société d'une enfant à une très jeune femme? Et puis il y a un regard quand même qui commence à se poser aussi sur le corps d'une fille de 15 ans qui n'est pas le même que sur celui d'un ou d'une enfant.
Oui, c'est vrai. Je pense que ça en fait partie justement. C'est vrai que mon corps, après, j'ai beaucoup changé. Je mettais des boucles d'oreilles, des accessoires, j'ai même coiffé. Donc j'avais pas du tout de critiques, au contraire, toujours beaucoup de compliments. Mais... je me suis jamais dit que j'étais belle. Au contraire.
Vous aviez un petit copain à cette époque-là, adolescente ?
J'ai eu, aussi une relation. Mais avec ce garçon, c'était alors, en phase où j'étais peut-être le plus mal au fond de moi. Parce que, disons que je me trouve jamais assez pour l'autre. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est toujours « est-ce que je mérite vraiment ? Est-ce qu'il ne va pas trouver mieux ailleurs ?» Et ça, c'est assez lourd. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix à un moment donné de faire de l'hypnose, parce que ça devenait un réel problème aussi au niveau social et au niveau privé.
Ça vous a aidé l'hypnose ?
Alors non, j'y crois. Je pense que l'hypnose peut beaucoup aider, mais à ce moment-là, ça ne m'a pas aidée. Moi, ce qui m'a vraiment débloquée dans ma vie, ça a été le concours Miss Suisse francophone.
Alors, comment est-ce que vous avez décidé d'y participer ?
Alors, simplement parce que, à force d'entendre que je pouvais faire des concours, être Miss, être mannequin, ma maman savait qu'au fond de moi, c'est sûr, quand je voyais les Miss France, par exemple, c'était toujours un rêve, mais c'était inaccessible. Je me disais, comment je ferais à défiler sur cette scène, ça serait impossible, je viendrais toute rouge, t'imagines la honte. Je me disais, waouh, elles avaient l'air toutes parfaites dans ces concours de beauté, j'allais jamais réussir. Ma maman me disait, t'es belle, intelligente, essaye, t'auras toujours le regret, etc. Et puis au final, c'est un peu elle qui m'a inscrite quand j'avais 20 ans. Et alors, quand j'ai été sélectionnée au casting, donc j'étais toujours devenue toute rouge, c'était un peu la catastrophe. D'ailleurs, quand je suis sortie, après 2 minutes, j'écrivais déjà à ma maman, je ne serai pas prise, laisse tomber. Et au final, j'ai été prise. Et puis là, après, ça a été étape après étape. Là. Ça a été vraiment repousser mes limites semaine après semaine. À chaque répétition, à chaque rendez-vous, une fois il fallait prendre la parole devant des gens, une fois il fallait défiler. Et là, c'était chaque fois, j'arriverai pas. Et puis c'était peut-être sûrement pas le meilleur défilé qu'ils avaient vu, mais une fois que c'était fait, ça a été chaque fois un déblocage. J'ai réussi à parler, ok, je suis capable de parler. J'ai réussi à défiler, ok, je suis capable de défiler. Et là, après, ça a été un peu plus... naturel, disons. J'ai arrêté de rougir. Je me suis jamais vraiment expliqué le fait que pendant peut-être 7 ans, j'ai toujours rougi tous les jours de ma vie. Et puis, grâce au concours, j'ai plus rougi. Je pense que c'est aussi le fait que dans le concours, on est très jugé, mais jugé à voix haute. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit le commentaire en pleine face. C'est dur, on a envie des fois de se cacher, mais ça permet en fait de comprendre que c'était bien, on a peut-être bien défilé, fallait juste pas mettre le pied comme ça. Et alors, on accepte plus les commentaires comme ça. On nous dit ce qui va, ce qui va pas, et on avance. Puis on n'a pas le choix en fait aussi. C'est qu'on a rendez-vous, Amélia, tu dois défiler, ok, je défile. Et on n'a pas le choix et on doit repousser nos limites.
Comment on se sent quand on est, par exemple, dans l'épreuve du maillot de bain et qu'on est scanné par plusieurs paires d'yeux dans le jury et qu'on doit faire face à leur verdict ?
Alors, c'est très dur parce que là, on est vraiment jugé que physiquement. Et je trouve que c'est vrai que ben, on a toutes des défauts. Chaque personne a un peu de cellulite, des vergetures, surtout nous femmes peut-être. Donc, on se dit... Oh mon Dieu, enfin, c'était vraiment une grosse épreuve, surtout celle du maillot de bain, effectivement. Mais là aussi, en fait, on se lance et on donne tout. Après, on est mis à nu un peu aussi parce qu'on ne peut rien cacher de son corps. Et ce n'est pas facile, mais après, on l'accepte comme toutes les autres étapes.
Autour de vous, dans votre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des réserves face à cette participation ?
Il y a eu des personnes, mais pas directement avec moi, plus par exemple avec mes parents. Peut-être qu'ils se disaient « Ah, sa fille, elle fait ce concours » et peut-être de la jalousie aussi à ce niveau-là. Ça, c'est vrai qu'eux, ils en ont plus souffert que moi, mais aussi secrètement, ils ne voulaient pas me faire peser. Mais eux étaient très, très fiers. Mon frère aussi, lui, il ne serait pas du tout à faire ce genre de concours. Il n'est pas du tout là-dedans, mais il était aussi toujours présent, demi-finale, finale, dès qu'il pouvait m'accompagner, m'accompagner aussi.
Et est-ce qu'à l'époque donc, de votre participation au concours de Miss, vous avez entendu les critiques aussi sociétales sur le concours de Miss en soi, où c'est vraiment prendre le corps de la femme, puis le juger certains peuvent trouver ça anachronique, problématique. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez entendu ces critiques ?
Alors j'avais entendu ces critiques-là. Après, j'ai tendance à leur dire que je défends en fait le concours à ce niveau-là parce qu'ils regardent aussi beaucoup la personnalité. Pour moi, la beauté, c'est vraiment un tout. C'est pas que physique. Donc aussi, ils délibèrent sur ça. Le jury, à la finale, on passe 30 minutes avec eux pour justement des questions au niveau de culture générale et privée. Moi, les parties que j'aimais le plus, c'était justement quand je devais débattre sur un peu des sujets de la vie. Et là, ben, c'est vrai que j'avais obtenu, par exemple, à la finale, tous les points. Et pour moi, ça, c'était une fierté aussi parce que il faut avoir une belle personnalité pour être Miss. C'est-à-dire avoir une beauté intérieure, entière, avoir un peu d'empathie pour les gens. Il y a beaucoup de valeurs qu'une Miss doit avoir. Et le fait qu'il pousse chaque personne à améliorer les choses qui ne vont pas au niveau physique et aussi au niveau justement personnalité, ça m'a aidée aussi au niveau social parce que c'est vraiment, comme je dis, l'étape dans ma vie qui m'a permis d'être où je suis maintenant aussi, c'est-à-dire une femme quand même un peu plus affirmée. Je dirais pas que j'ai beaucoup, beaucoup de confiance en moi, mais disons que voilà, je vous parle aujourd'hui à un micro, j'ai vraiment accompli beaucoup de choses. J'ai réussi à vraiment m'ouvrir aux gens, faire beaucoup de rencontres professionnelles aussi. Et je souffre plus maintenant de ce même manque de confiance en moi.
Par contre, même si c'est très difficile à admettre, être belle ou beau, ça a aussi son lot de préjugés et de préjudices que les gens peuvent projeter sur vous. Dans quelle situation est-ce que vous avez l'impression que ça vous a peut-être desservi d'être la personne que vous êtes ?
Moi, je pense que ce que je souffre le plus, c'est la jalousie.
Des autres femmes, donc ?
Oui. Ça se traduit beaucoup avec le regard. Même dans la rue, partout, le regard est lourd, souvent. Quand, par exemple, je vais au magasin même, avec ma maman, il y a le regard de la caissière, je sais pas, et après je lui dis, mais tu as vu comme elle était antipathique? Et elle me dit, non mais c'est qu'elle est juste jalouse. Et je me dis, mais comment c'est possible en fait qu'à l'heure actuelle, il y ait des gens qui soient comme ça juste par jalousie en fait?
J'imagine que dans un tout autre contexte, c'est aussi un regard qui peut être pesant en termes de harcèlement de rue, par exemple.
Oui. Sur ce sujet, je trouve ça terrible que tant de femmes subissent le harcèlement de rue. Et moi, personnellement, je l'ai subi très souvent. Des klaxons, des gens qui se retournent, qui sifflent, etc. Je trouve ça très, très rabaissant. Pour moi, c'est vraiment le vrai exemple de manque d'éducation. Et c'est quelque chose que je ne tolère pas du tout. Alors, ces personnes-là, souvent, elles sont en groupe. Elles se sentent un peu plus puissantes de le faire en groupe. Donc, on n'a rien trop à faire, surtout qu'on est souvent toute seule aussi. Mais je trouve ça désolant. Je ne comprends pas. Mais j'en souffre souvent aussi, oui.
Vous avez déjà eu peur ?
Durant la journée, pas. Souvent, en plus, quand même, ils passent des fois en voiture. Ces personnes-là, elles klaxonnent, elles crient depuis la voiture. Mais c'est plus, par exemple, la nuit, s'il faut rentrer à la maison. C'est vrai que ça peut faire vite peur. Ces gens-là, en fait, ils se rendent pas compte que, dans l'autre sens, ils se mettent pas à la place de la femme à ce moment-là. La place de la femme, à ce moment-là, elle est vraiment rabaissée au maximum.
Et dans le milieu professionnel, il y a des anecdotes dont vous vous souvenez ?
Au niveau professionnel, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Par contre, un peu partout, les femmes, en général, se mettent en compétition entre elles. Elles se sentent un peu comme s'il y a une concurrente qui arrive, par exemple dans l'hôtellerie, peut-être à la réception. Elle pense que j'ai été engagée parce que j'aurais une image un peu plus jolie à donner aux clients. Moi, je ne sais pas pourquoi ces personnes-là sont jalouses, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le cas contraire, si je vois quelqu'un qui est plus belle que moi, je lui dis « mais tu es magnifique », je lui dis clairement, en fait, parce que je pense que c'est plus cohérent de dire la vérité à la personne que de se morfondre dans soi et de pas lui parler parce qu'on la trouve plus belle que nous. Mais je ne me défendais pas, je me disais si elle m'accepte pas, tant pis, et si elle prenne le temps de me connaître, tant mieux. Jamais j'ai voulu compenser en me maquillant moins ou en faisant moins attention à moi, comme ça peut-être elles avaient pas un jugement sur moi. Au contraire, je suis restée vraiment moi-même. Et je me suis dit, ben, si elle ne m'accepte pas, c'est que de toute façon, je serai sa collègue et on devra quand même travailler ensemble. Donc, tant pis, en fait.
Est-ce que vous avez également souffert d'interactions avec des collègues masculins qui vont peut-être plus se porter sur soit la drague, les blagues sexistes, ce genre de choses ?
Peut-être au niveau des clients. Par exemple, à la réception ou dans un restaurant comme serveuse, ça souvent, c'est tout d'un coup, on a un plus grand décolleté qu'un autre jour, tout simplement, alors ils commentent. Ça ne se fait pas en fait, je ne suis pas là pour montrer mon décolleté, mes seins, et ça c'est quelque chose que je ne tolérerai pas. Parce que ça nous fait vraiment sentir, je trouve ça en fait dégueulasse. On m'a toujours appris le client est roi s'il se comporte comme tel. Et du coup, je laissais jusqu'à un certain moment, mais je me permettais de les remettre en place. Je disais ben, que c'était la dernière fois que je voulais entendre ça. Alors, c'est vrai que j'ai quand même un peu le sang chaud et pas mal de caractère qui est caché. Et j'ai déjà risqué de mettre même une baffe à un client. Dans la rue, je l'aurais fait. Je me souviens, par exemple, à l'école... Ça, j'avais 13 ans et quelqu'un justement m'avait fait un commentaire sexiste. C'était la seule baffe de ma vie que j'ai donnée, mais j'en ai donné une, ouais. Et là, j'avais aussi ben, justement pas confiance en moi, mais j'ai eu assez de confiance pour donner une baffe. Parce que c'est vraiment des choses que je trouve... Ouais, c'est une bataille en fait, personnelle. Mes parents m'ont assez appris à me défendre et puis que quand même, j'avais une certaine valeur aussi. Donc je peux pas me laisser faire à tout, et sur ça, c'est sûr que je n'accepte pas.
Et de la part des hommes qui ont été vos petits amis ou votre conjoint actuel, est-ce qu'il y a eu une quelconque référence à votre beauté ? Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce que vous n'avez jamais eu le sentiment d'être une sorte de trophée, entre guillemets ?
Non, je me mettais tellement en arrière que de toute façon, ils ne pouvaient pas me montrer comme un trophée. Et étant assez renfermée au niveau surtout ben, justement des hommes, j'ai jamais eu cette sensation-là. Et puis, c'était des personnes qui avaient beaucoup de valeur. En tout cas, au niveau de mon conjoint actuel, il me complimente, mais il s'est beaucoup attaché à ma douceur. Quand quelqu'un lui dit « Ah, mais Amélia, ouais. parfaite, elle est très douce. Il dit pas oui, elle est trop belle, non, elle est douce, c'est ce qui retient et c'est ce qui me fait plaisir aussi parce que du coup ça fait partie de ma personnalité et donc ça me fait plaisir en fait. La beauté, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est maigre qu'on est beau, c'est pas parce qu'on a un beau visage qu'on est beau. Il y a beaucoup de femmes qui ont des rondeurs qui sont super belles. Je pense qu'il n'y a pas un code pour la beauté physique. On a tous une autre définition de la beauté.
C'est drôle parce que le concours de Miss, pour moi, c'est justement un peu l'inverse de ça. Il n'y a rien de plus normatif qu'un concours de Miss.
C'est vrai que Miss France, voilà, elles sont toutes dans la même lignée, c'est-à-dire minces, longues, un beau visage, toutes parfaites. Ici, on a un autre niveau quand même en Suisse. Quand j'étais candidate, on n'avait pas tous du tout le même corps. Il y avait qui était plus petite, qui était beaucoup plus grande. Il y avait des personnes avec 1m66, 1m80. Il y avait beaucoup plus maigres que moi. Il y avait quand même une bonne palette de personnes différentes, en tout cas Miss Suisse francophone. Mais c'est vrai que même pour être Miss France, il faut quand même avoir quelque chose dans la tête. Et le premier abord, ce sera le physique, c'est sûr. Mais après, il faut essayer de défendre aussi un peu ses valeurs. Et on sait que si on devient Miss, on aura plus de facilité à faire véhiculer certains messages. Moi, c'est ça aussi qui m'a motivée. Parce que je savais que si j'allais jusqu'à la fin, peut-être les personnes comme moi qui n'ont pas de confiance, je pourrais leur faire passer un message, voilà, de mon expérience personnelle. Ben, par exemple, le harcèlement de rue, si j'en parle aujourd'hui, peut-être sur mes réseaux sociaux, j'aurais peut-être une voix un peu en plus qu'une simple personne qui n'a pas été connue avant, auparavant. Donc c'était pour moi aussi important, par après, de pouvoir passer des messages.
Et poursuivre dans le mannequinat, ça vous a tenté ?
Oui, par après, j'ai fait pas mal de shooting, de projets professionnels là-dedans, ou dans les défilés, ou pour poser pour une marque. C'est un monde que j'ai beaucoup aimé découvrir. Encore aujourd'hui, j'essaie de peaufiner toujours un peu mon Instagram, j'aime bien mettre des choses, mais vraiment vivre là-dedans, je pense que c'est quand même très important d'avoir les pieds sur terre. C'est quand même un monde qui peut vite nous les enlever parce que tout d'un coup, les gens nous appellent, on a pas mal de portes qui s'ouvrent et ça donne un peu des paillettes dans les yeux. On croit un peu qu'il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas un monde facile. Donc, il faut être très responsable, mature. Par exemple, quand on gagne un concours de genre, il y a une image qu'on donne, c'est-à-dire le fait d'être mince, par exemple, ou comme ça. Et on peut tomber dans l'anorexie parce qu'on veut ressembler au modèle, au mannequin. Et puis, il y a des photographes qui sont un peu, disons, connus pour peut-être avoir regardé pendant que la modèle se changeait. Il y a des harcèlements un peu cachés là-dedans aussi, où il y a des vidéastes qui ne payent pas après avoir fait la vidéo en question pour une marque ou comme ça. Donc, s'assurer quand même de beaucoup de choses, sinon on se fait vite avoir.
Ça vous est arrivé ?
Ça m'est jamais arrivé. Comme je dis, j'ai agrandi assez vite dans la tête. Je suis partie vite de la maison pour l'apprentissage à 15 ans. Je vivais déjà plus chez mes parents. C'est vrai qu'à mes 19 ans, je suis partie en Australie vivre 6 mois pour apprendre l'anglais. Et puis, mes parents m'ont bien appris à comment fonctionnaient les choses. Et ils sont toujours très présents aussi. Donc, j'en parlais beaucoup avec eux. Et je ne suis jamais tombée dans un de ces pièges, on va dire. Mais ça peut arriver.
Est-ce que quand vous vous plaignez de cette attention souvent indésirée que vous recevez, vous vous faites entre guillemets remettre à votre place par des gens qui vous disent « Enfin, quand même, tu vas pas te plaindre d'être comme t'es. » Parce que toi, de toute façon, tout est si simple.
Souvent, c'est vrai. Et je me suis toujours défendue, en fait. Je leur ai montré, peut-être avec des exemples, que non, c'est pas simple. J'ai beaucoup changé de travail. Maintenant, je partage ma vie entre la Suisse et l'Italie. Ça a toujours été des choix pas faciles non plus, loin de ma famille, voilà. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre « ne te plains pas, tu as la vie parfaite, tu es parfaite toi-même ». on a l'air d'avoir une vie simple, mais juste parce qu'on est belle. Alors que c'est pas ça la réalité, en fait. Et au contraire, même au niveau professionnel, quand j'envoie mon CV, je me dis, ouais, si c'est une femme qui va le recevoir, peut-être que... J'avais à un moment enlevé le concours parce que je me suis dit, ça va influencer les gens. J'ai été Miss, donc peut-être que j'ai la grosse tête. Donc non, c'est loin d'être plus facile parce qu'on est belle.
Pour finir sur la question des préjugés, moi, le premier que j'ai l'impression qu'on nous inculque, c'est belle et stupide. Au-delà de la concurrence, au-delà du harcèlement, il y a cette image de la beauté synonyme de bêtise.
Oui, on semble être un peu superficiel parce qu'on est belle, du coup, un peu plus un objet peut-être que d'autres. Au niveau professionnel aussi, c'est vrai que j'ai changé souvent quand même de place. Et partout où j'allais, j'ai eu des beaux rapports, mais j'ai dû me les créer. Parce que j'ai senti toujours un premier jugement. Ah, cette fille belle qui arrive, qui débarque, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, après, quand ils apprennent à me connaître petit à petit, alors ça se débloque. Mais on a toujours une première étiquette.
Est-ce qu'il y a des gens que vous avez appris à connaître qui, en rétrospective, vous ont dit « Ah, mais tu sais, maintenant, je peux te le dire, la première fois que je t'ai vue, j'ai pensé que... »
Très souvent. Très souvent, surtout au niveau professionnel, dans ce cas-là, où on me disait « Ah, mais en fait, t'es super sympa, t'es super drôle, mais en fait, je pensais que t'étais un peu une pimbèche. » Sur mes hauts airs, que je prenais très soin de moi, etc. Que je passais le matin 3 heures à la salle de bain, etc. Et ils se rendaient compte qu'en fait, j'étais la première à manger peut-être gras, voilà, enfin, à ne pas faire trop attention. Et en fait, après, ils m'avouent qu'ils se sont trompés sur moi. Et ça me fait plaisir parce que ben, moi, c'est justement la personne qu'après, ils ont connue qui m'intéresse. Une personne simple, souriante, drôle. C'est ça que je veux montrer, justement. Et que j'ai réussi à changer la pensée d'une personne sur moi, ça me fait très plaisir après.
Est-ce que parmi les Miss ou parmi les mannequins que vous avez côtoyés, vous avez pu vous faire des amis avec lesquels vous avez pu partager un peu cette thématique du préjudice avec, encore une fois, des guillemets, on est bien conscient du fait que c'est aussi un privilège, mais quand même une forme de préjudice que ça représente d'être si belle.
J'ai pas souvent partagé ça, non. C'est pour ça que je suis contente aujourd'hui de pouvoir en parler, parce que c'est vraiment un sujet un peu tabou qu'on n'ose pas aborder pour pas avoir cette image de elle en parle, donc elle se trouve belle. Elle a la grosse tête. On n'a ni le droit de se plaindre, ni le droit de se complimenter. Donc pour moi, pour me confier, c'est très difficile encore. J'ai vécu beaucoup de déceptions au niveau amical. Du jour au lendemain, on m'a tourné le dos. Donc, je suis très méfiante au départ, surtout. J'aime beaucoup entendre les gens. Je suis toujours là pour leur apporter un conseil ou une aide, une empathie. Mais c'est vrai qu'après aussi, avec dû à ma vie, c'est dur de s'attacher, en fait. J'ai toujours de la peine à me dire que cette personne-là, elle va pas me trahir un jour. Et du coup, ça me fait peur de lui confier ce que j'ai, moi, sur le cœur. J'aime donner, mais j'ai presque peur de recevoir. Donc j'ai beaucoup de connaissances, mais le mot « ami », c'est quand même quelque chose de très important, parce que les amis, ça peut devenir aussi une famille, et c'est dur d'en avoir. Heureusement, je pense qu'à mon âge, à 24 ans, on devient quand même beaucoup plus mature, donc j'ai un peu plus de chance maintenant de rencontrer des personnes avec qui c'est possible de dialoguer, mais... Je mise pas non plus trop maintenant sur l'amitié. Je sais ma vie, enfin, quelle vie je mène. J'adore connaître du monde, mais ce sera beaucoup de connaissances. Je pense qu'on peut s'entendre bien avec des personnes sans forcément dire le mot ami, parce que c'est quelque chose de, pour moi, de très fort.
Aujourd'hui, avec le parcours que vous avez, comment est-ce que vous décririez cette beauté? Est-ce que c'est plutôt un atout, un poids?
Alors, je ne pourrais pas me plaindre sur cette beauté parce que je sais que je suis chanceuse, par exemple, de ne pas avoir forcément de boutons ou de choses, un nez, un gros nez ou je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient peut-être être comme moi. Mais j'aimerais en fait juste rappeler que ce n'est pas parce qu'on est beau, que c'est facile, qu'on a une belle vie. Ça m'a souvent porter préjudice quand même. Et c'est à cause vraiment de la pensée des gens. Donc il faut vraiment que les gens apprennent à juger plus loin que l'apparence.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!